Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin, et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin, et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin.
Merci. Je vais vous emmener à Paris. Vous avez le plan du métro sur certaines chaises. Mais regardez d'abord le petit clip de départ. Vous imaginez, vous êtes dans le métro et vous posez la question, qu'est-ce qu'il va nous raconter ce matin avec l'histoire du métro ? Essayez de réfléchir. Comme impression en regardant ces gens va-et-vient. Le métro est un univers en soi. Il y a des décorations, il y a de la vie, il y a des choses à voir. C'est pas du tout morne. La musique, il y a de très bons orchestres dans le métro, ils sont tous sélectionnés, donc vous allez voir dans la suite un orchestre qui vient des pays de l'Est, qui est assez très performant, c'est sûrement des gens qui sortent du conservatoire, donc il y a de l'animation, il y a de la vie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vie dans le métro. À quoi pourrait ressembler ce métro si on parle en termes de parabole? Parce que je vous parle d'une parabole, c'est une parabole moderne et je vais essayer de vous faire comprendre un certain nombre de choses à partir de cette parabole. Une parabole est toujours très ambiguë et je vais partir du plan du métro de Paris. Alors, je vais quand même poser la question, qu'est-ce que vous mettriez à partir de là? Ça vous fait penser à quoi, si vous pensez parabole? C'est quelle image? C'est l'image de quoi? Quelqu'un a une idée? Pardon?
Des foules.
Des foules? Et font ces foules, ils font quoi? Un terme, donnez-moi un terme. Il se déplace, il voyage. Voyageur, ça vous dit quelque chose? Donnez-moi un texte biblique qui parle de voyageur.
Les pèlerins d'Emmaüs.
Oui. Encore un terme plus précis.
Nous sommes voyageurs sur cette terre.
Ah, je vais demander à Martine de lire un texte.
Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils recherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée, sinon ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'il cherchait, c'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. C'était Hébreux 11, 13 à 16.
Pour moi, l'image du métro, c'est l'image de notre terre. Nous vivons comme dans un métro, en souterrain. On voyage, on circule, on s'amuse, on regarde. Et au-dessus du site du métro, il y a la ville de Paris. Et en fait, au-dessus de notre existence, il y a l'éternité, il y a l'au-delà. Il y a ce que Martine a lu, la ville de Dieu. Et j'aimerais bien qu'on travaille sur ces deux axes, sur ces deux niveaux. Le niveau souterrain de notre vie et le niveau, j'appellerais ça les Champs-Élysées. Hein. Alors imaginez que, voilà, vous êtes dans ces souterrains. On va faire comment pour accéder sur les Champs-Élysées. Alors il y a bien sûr le plan. Et si vous ouvrez ce plan, vous avez des tas de lignes de métro. Pour ceux qui n'ont pas de carte, vous regardez sur les environs. Pour moi, dans ce métro, dans ce souterrain, il y a une ligne, et Xavier en a beaucoup parlé, Jésus, la ligne du Christ. Et cette ligne du Christ, c'est la seule ligne dans cette vie qui nous amène sur les Champs-Élysées. Et il n'y a qu'une seule sortie. Mais par contre, il y a des tas de lignes en même temps que la ligne du Christ, des lignes philosophiques, des lignes ésotériques, des lignes religieuses aussi, qui proposent la même chose. Hein? Les gens regardent et disent « Ouais, bon, tout le monde se ressemble, toutes les lignes se ressemblent. Hein? » Combien de fois on a entendu cela autour de nous, mais Allah, c'est la même chose que le Christ, le bouddhisme, ça amène aussi dans l'éternité, enfin dans le nirvana, et ainsi de suite, et on confond tout, et on a l'impression que, effectivement, en regardant, elle est où cette ligne du Christ? Et cette ligne du Christ, elle est unique, elle n'est pas interconnectée avec les autres lignes. Il y a une entrée et une sortie. Maintenant, si vous allez vers les gens, vous leur montrez le plan, et dites, regardez, là, il y a la ligne du Christ. Elle est cachée. C'est aussi un thème de l'évangile. Chercher. Combien de fois il est dit dans l'évangile, chercher. La ligne du Christ ne se trouve pas facilement, c'est pas avec des néons. Mais peut-être, à un moment donné, les gens vont la rencontrer, cette ligne. Il y a peut-être un orchestre de l'armée du salut, peut-être pas ceux qui ont fait l'Eurovision, qui vont être devant l'entrée pour attirer les gens. Et ils vont dire, ça c'est la ligne du Christ. Non, ça va pas. Combien de gens vont dans les églises et disent, ouais, mais c'est nul leur histoire. Ils veulent arriver dans l'éternité. Ça ne marche pas. Et voilà que il y a toute cette problématique du Christ qui n'a pas des grands néons, des spots, des machins. Et en plus, les gens me disent, mais toi, tu me dis, il n'y a qu'une seule sortie vers l'au-delà, vers l'éternité. Remarquez, je suis en train de vous parler d'une parabole. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule sortie, mais je parle sous forme parabolique. Donc, la sortie que Dieu a fait pour nous, pour sortir sur les Champs-Élysées. Et vous allez dire aux gens, mais voilà, vous parlez des Champs-Élysées. Ils disent, oui, montre-nous des photos, montre-nous des films. Il y a quelqu'un qui est revenu des Champs-Élysées pour parler de ça. Ah non, j'ai rien à vous montrer. C'est nul ton histoire, c'est nul. C'est toute notre problématique de chrétien lorsque nous parlons du Christ aux autres. Ils nous disent, mais montre-nous, et nous n'avons rien à montrer. Nous disons, oui, il faut croire, il n'y a qu'à croire. Mais oui, c'est ça. Voyez le dilemme qu'il y a pour les chrétiens de transmettre leur foi dans ce monde. On n'a rien à montrer, on ne peut rien prouver,
On peut dire simplement, je crois, j'ai cru à un moment donné dans ma vie, ça a transformé ma vie. Alors, comment arrive-t-on sur cette ligne du Christ? Il ne faut pas que je traîne les pieds. Quand on entre dans le métro, on entre avec un ticket de métro. Maintenant, imaginez que vous êtes devant la ligne du Christ et que vous distribuez des billets gratuitement. Voilà, la sortie pour les Champs-Élysées, voilà le ticket, c'est gratuit. Les gens vont dire, gratuité, mon œil, c'est encore une arnaque. Autre difficulté. Et je suis sûr que les gens préfèrent aller payer le double, triple, de dire oui, pour les Champs-Élysées, c'est un petit peu plus cher que pour aller aux Halles, par exemple, ou bien à Rungis ou ailleurs. Ils préfèrent payer et dire oui, puisqu'on paye, ça doit être vrai. Mais ne pas pouvoir montrer où sont les Champs-Élysées, puisque les gens n'ont jamais été, personne d'entre nous n'a été aux Champs-Élysées. Et puis, de l'offrir gratuitement, ça ne marche pas du tout. Vous voyez, la difficulté de croire aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et ces tickets de métro, ils sont à disposition. C'est au fond l'offre du salut. Je voudrais aussi, juste faire une parenthèse, moi j'ai pris ce ticket de métro, j'avais l'âge de 9 ans à peu près, je ne me rappelle plus de l'année, mais je me rappelle du message de la personne qui a transmis et qui a fait un appel. Je peux vous rappeler le message. Et c'est là que je me suis engagé avec Dieu. J'ai pris mon billet de métro. Mais il y a un texte qui est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui prennent le ticket de métro, le mettent dans la poche et disent, voilà, j'ai le ticket de métro pour les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au métro? La première chose qu'il faut faire, il faut mettre dans la machine. Alors ça veut dire quoi, spirituellement parlant, mettre dans la machine? Il y a des gens qui peuvent lever la main, par exemple, dans une rencontre, on leur dit, voilà, qui est-ce qui veut s'engager avec Christ, qui est-ce qui veut aller aux Champs-Élysées? Moi, voilà, t'as le ticket pour y aller. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans Matthieu. J'ai voulu faire comme à ICF, mais il y a Roger qui rigole. Non. Oui. Si quelqu'un dit devant, c'est un texte de Matthieu, si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Et la clé, elle est là. La validation, c'est ça. Et Samuel Escobar, c'est un théologien sud-américain, il disait, pour savoir si une personne est dans la foi et convertie, le terme classique, générique qu'on utilise, que j'aime pas trop, de dire je suis converti, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui, mais disons-le comme ça, c'est quand cette personne confesse devant les autres qu'elle appartient à Christ. Ça, c'est le ticket qu'on entre et qui fait que nous validons notre salut. Et ça veut dire que vous, par exemple, est-ce que vous avez déjà, une fois au moins, parlé de votre foi à quelqu'un? Si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais essayé de communiquer votre foi à quelqu'un d'autre, vous devez vous poser des questions. Je suis très sérieux là. C'est pas parce que ça fait toc-toc dans un culte comme ça, où vous êtes bien, et ainsi de suite, que les choses se développent. C'est parce que vous confessez, donc vous parlez. On dit, oui, moi je fais du bien aux autres, mais je cause jamais, je dis jamais. C'est la parole. Et c'est là, on revient à la grande idée de la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui parle, et il demande à nous de parler, de confesser. Pas seulement de faire du bien. C'est important. Mais c'est pas ça qui nous branche pour aller dans l'éternité. C'est parce que nous confessons Jésus-Christ comme sauveur devant les hommes. Il y a un texte des Romains, pour ceux qui le souhaitent, je vous le dirai, donnerai après, qui dit exactement la même chose. Ce n'est pas seulement un texte que je tire comme ça de l'Évangile. Donc c'est très très important de confesser. Pour moi, c'est le départ. Et c'est très important parce que quand on entre sur cette ligne du Christ, alors on a peut-être des doutes. Si on imagine, voilà, on a le ticket, on entre sur la ligne du Christ, il n'y a pas de validation. Vous allez vous dire, ah oui, mais non, vous allez douter tout du long. Mais oui, mais j'ai fait un truc, ça n'a pas... Mais le fait que vous avez confessé devant les hommes, c'est une sacrée validation de départ. C'est pas ça qui va vous sauver, parce que il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contravention pour ceux qui entrent en fraude sur la ligne du Christ. Le ticket va vous être demandé à la sortie. À la sortie. Et si vous n'avez pas le ticket, vous n'arrivez pas sur les Champs-Élysées. Donc, il y a beaucoup de gens qui entrent sur cette ligne par fraude. Vous avez vu à Paris, quand vous y êtes, les gens qui se collent derrière, hein, et qui rentrent à deux sur la ligne. Moi, j'imagine, c'est souvent les femmes, nos familles, puisqu'on parlait de nos enfants. Les enfants qu'on colle derrière, allez, viens avec moi. Et qui rentrent sur la ligne et qui n'ont pas le ticket. On dit, voilà, ils sont sur la ligne. Et combien de gens dans nos églises croient être capables d'arriver sur les Champs-Élysées et ils n'ont pas le ticket pour sortir. Je m'imagine que la ligne du Christ, c'est une ligne, des rails, c'est ça le Christ, et il y a différentes rames, la rame catholique, la rame orthodoxe, la rame évangélique, la rame pentecôtiste, la rame... Et les wagons sont décorés différemment, on y danse différemment dans les wagons. Il y en a qui sont très coincés dans leur wagon, mais ils sont sur la ligne du Christ. Rapidement, je ne vais pas développer encore ce thème-là. Nous sommes sur la ligne avec nos soucis, nos souffrances. Nous sommes sur les rails. Dieu nous demande pas de rentrer parfait et d'être parfait sur cette ligne. Il y a juste un truc à la sortie. Il y a une petite pancarte quand vous allez voir la sortie vers les Champs-Élysées. Tenue correcte exigée. On revient au culte de dimanche dernier avec Roger et Ananias et Saphira. Tenue correcte exigée. Là aussi, je fais très rapide. Pour moi, c'est une tenue correcte exigée. Voilà, je suis au culte. Mais il y a d'autres qui pourraient dire, il faut mettre une cravate, il faut avoir un costume Blueberry, Burberry plutôt, avoir un sac de... ou habiller Zadig et Voltaire. Et oui, il y a des gens qui ont des spiritualités super. Tenue correcte exigée, c'est très important. Parce que si on a eu, comme moi, presque 60 ans maintenant, si je prends mes quelques années avant ma conversion, si je les déduis, j'ai eu le temps de m'habiller, de ne pas venir en clodo sur les Champs-Élysées. Hein? Le brigand sur la croix, il a pris la dernière rame. Il n'avait pas le temps de s'habiller correctement. Ben, il est rentré comme ça. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu nous fait grâce aussi. Il connaît nos vies, il connaît nos difficultés, nos malformations. Et des choses qu'on ne peut pas changer comme ça. Mais nous devons travailler à une tenue correcte. C'est ça, là, ça s'appelle la sanctification, tout simplement. Mais ce n'est pas le truc le plus important pour rentrer. Le plus important, c'est d'avoir le ticket. Alors juste, on va passer un deuxième clip rapidement. C'est à Paris, le métro, il sort de temps en temps du souterrain. Et tout à coup, il plonge après. Alors, on va le passer, vous allez regarder, et vous allez regarder le nom de la station. C'est très important. voilà, il replonge dans le souterrain. Et en fait, pour moi, l'Église, c'est ces moments de grâce, comme on dit aussi dans le jargon, où on sort tout à coup de nos souterrains et on se dit, ah oui, il y a quelque chose de plus. Quand on vit des pardons, quand on vit des guérisons, quand on vit des moments difficiles où on a pu s'en sortir. On pourrait penser à certaines personnes qui ont vécu la maladie, qui ont vécu la difficulté. Eh ben, on peut dire, ah oui, oui, ça existe. Et plof, après, on retombe dans notre souterrain. Ça, c'est génial de voir aussi l'Église comme l'endroit où on expérimente ce qui va se passer plus tard. Et alors plus tard, on va maintenant juste passer au suivant, on va sortir aux Champs-Élysées. La montée vers les Champs-Élysées. Alors c'est pas tout à fait juste l'image pour notre parabole, parce qu'il y a aussi une descente. Donc cette abstraction de la descente. Sur les Champs-Élysées devant l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, c'est Napoléon qui l'a fait construire et il y a quelque chose de très particulier. Évidemment, il a marqué ou il a fait graver que le nom de ses victoires. Bien sûr, ses défaites, il ne les a pas marquées. Waterloo, par exemple, il n'y est pas. Et le nom de ses généraux. Et je m'imagine, quand on va arriver dans l'éternité, le Christ va nous prendre par la main, en haut de l'escalier, il va dire, regarde, regarde, regarde. Ici, il y a toutes tes victoires qui sont marquées et aucune de tes défaites. C'est extraordinaire, ça. Et puis, il y a le nom des généraux. Ah, regarde là, il y a le général Roger Sewell. C'est un Anglais, mais il a bien travaillé. Il y a un grognard, alors un tout vieux là de la bande là, c'est un général qui a fait le Laos, qui s'appelle Armand Heiniger. Et il y a Harry Meyer, c'est un autre général là. Ah, et puis il y a Jean-Jacques Mélan. Mais il y a aussi, je ne vais pas tous les citer, il y a un vieux général qui s'appelle Blaise Favargé, c'était le général de la communication. Et il y a celui, il y en a un Erdener, un général Erdener qui s'occupe de médicaments. Bien sûr, c'est très important pour les batailles, hein, pour les gagner. Ben, je ne veux pas les citer tous. Et puis, il y a les généraux du groupe de jeunes, par exemple. J'ai le Seigneur qui parle dans l'oreillette. Ah oui, il me dit, le Seigneur m'a dit dans l'oreillette, c'est pas des généraux, mais c'est des appointés. En fait, on peut tous devenir des gens... des généraux. Et là aussi, peut-être, le Seigneur vous appelle ce matin à entrer dans cette lignée des généraux et des appointés pour faire gagner, pour gagner les batailles dans ce monde. Alors, voilà. Je vais terminer en vous appelant, en vous demandant, est-ce que vous avez votre ticket de métro spirituel? Si jamais, j'en ai ici, toute une série, à la fin du culte, venez, prenez ce ticket, ça vous rappellera que Dieu vous offre et dites, je veux m'engager. Tu es peut-être dans ce train, son ticket. Alors, ce matin, prends l'occasion de prendre ton ticket et après, quand tu auras fait cette expérience, nous allons prier pour toi et avec toi pour t'encourager à la fin du culte. Et alors, après ça, tu vas valider ton ticket et tu vas dire, je suis sur la ligne du Christ. Je suis avec le Christ. Merci.